Pourquoi accuse-t-on la Russie du meurtre de Déby, alors que ce dernier se trouvait en plein de champ de bataille contre une rébellion pour laquelle la Libye sert de base arrière? La réponse ne pourrait être sans lien avec ce qui se passe en Centrafrique. Le Monde Afrique accuse Wagner, venu de la Libye, d'être impliqué dans ce coup pour justifier sans doute la spectaculaire défaite de l'armée française à déstabiliser la Centrafrique par rebelles interposés. En effet, en RCA, la France et ses amis américano-otaniens ont tout fait pour pouvoir déstabiliser le président Ouadéra et casser la dynamique de réconciliation nationale et transformer les ex-rebelles reconvertis en politiciens à des parias armés. La France a même tenté de reprendre Bangui, mais à chaque fois, il n'a subi que des échecs. Vouloir mettre tout sur le dos de la Russie et sous-estimer le rôle de l'armée centrafricaine et l'État, c'est une colossale erreur que Paris tend à commettre régulièrement. C'est cette même erreur qui vient de commettre au Tchad en éliminant une grande figure du Sahel. Certes, ayant quelques faiblesses, en entrant dans des compromissions aussi bien avec la France qu'avec les États-Unis et Israël, mais cet homme est resté tout de même un grand. En effet, en faisant supprimer Itno de la scène politique tchadienne, en lui faisant succéder son fils, c'est à peu près un remake du scénario congolais. Un fils dompté qui remplace un père récalcitrant. Et puis, le verrou du Tchad une fois sauté, il y aura en amont de vastes déstabilisations tout autour. Comme l'a dit en son temps, quand l'OTAN a renversé Kadhafi avant de l'assassiner lâchement, pour ouvrir et pour pouvoir faire de ce pays pétrolifère nord-africain un éternel foyer de déstabilisation. Au fait, le coup d'État qui s'est soldé par l'assassinat du président Déby, l'ex-US OTAN Israël, l'a tenté il y a peu au Niger. Au Niger, il a perdu, ce qu'il a réussi au Mali et au Soudan. C'est le retour de l'ère des coups d'État et des coups de fourrée, des éliminations ciblées et tout ceci pour une seule et unique raison. Les puissances occidentales sont à court de moyens et s'enlisent là où elles s'engagent militairement. La transition placée sous la supervision du Itno-fils devrait d'ici quelque peu déboucher sur l'émergence d'une opposition armée qui exporterait des éléments armés vers des pays comme le Niger, le Cameroun, le Soudan, le Nigeria et autres. Mais au-delà de cette énième tentative de déstabilisation du Sahel, l'ex-US OTAN a les yeux tournés vers l'Algérie, car ce qu'il cherche avant tout, c'est de faire du Maghreb un Sahel bis. Depuis plusieurs mois, les États-Unis d'Amérique et leur allié israélien tentent de pousser les pays du Golfe Persique, mais aussi du continent africain, de normaliser avec le régime sioniste et d'en faire une porte d'entrée dans la corne de l'Afrique. Le premier pas fut la crise de Darfour, que l'ex-US-Israël a déclenchée en 2003, au même moment que l'invasion de l'Irak, et qui s'est soldée 7 ans plus tard, comme chacun le sait, par le démembrement du Soudan et la séparation du Sud-Soudan lors d'un pseudo-référendum à la mise en œuvre duquel a largement pris part Israël, en quoi Djouba voit son père fondateur. Ce plan étant un échec total, durant ces dernières années, le Soudan a été la cible des pressions occidentales pour céder à leurs exigences. Le plus récent plan de déstabilisation a donc été la crise de Tigré, en Éthiopie, via laquelle l'ex-US OTAN souhaitait faire monter le Soudan contre l'Éthiopie et ainsi provoquer une guerre interafricaine. Ce complot étant neutralisé grâce à la vigilance du premier ministre éthiopien, l'ex-US OTAN procède désormais à un autre scénario, celui des assassinats ciblés, la dernière victime étant le président tchadien. Suite à cet assassinat et les pressions sans cesse de l'ex-US OTAN, le Conseil souverain et le Conseil des ministres ont ensemble abrogé une loi datant de 1958 qui interdisait aux Soudanais toute relation diplomatique et commerciale avec l'État hébreu, une étape supplémentaire dans le rapprochement entre les deux pays. Mais comment une question cruciale comme celle de la normalisation des relations pourrait être perçue par les populations africaines? Certainement pas d'un bon œil. C'est dire que l'antisionisme est une constance du peuple soudanais. La junte au pouvoir, qui n'a pas encore osé annoncer officiellement la normalisation, pourrait avoir de très mauvaises surprises à venir. En Afrique centrale, c'est le Tchad, et en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal qui se trouve dans la ligne de mire occidentale. Pour une puissance néocolonialiste, le fait de voir les dirigeants des pays africains prendre en main le contrôle de leur pays, de tisser des liens avec des pays de l'axe de l'Est et de ne pas laisser l'axe occidental piller ses ressources est une pilule très difficile à digérer. Cette puissance néocolonialiste mise depuis longtemps sur Casamance afin d'en faire une source de déstabilisation pour parvenir au démembrement du Sénégal. Mais le président Sall a très bien compris le jeu occidental, et c'est pour cela que des membres du mouvement des forces démocratiques de Casamance ont rencontré des autorités sénégalaises au Cap-Vert la semaine dernière. De plus, le gouvernement sénégalais s'est donné un délai de 5 ans pour éradiquer les mines antipersonnelles des sols de la Casamance, dans le sud du pays, a assuré mardi la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall. Elle en a donné l'assurance lors d'un entretien avec des journalistes en marge d'une session extraordinaire de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Elle a salué le travail accompli par l'armée sénégalaise, dont les dernières opérations de ratissage ont permis de récupérer beaucoup de bases rebelles, assurant ainsi les conditions d'un retour des nombreux déplacés. Nous serons bien obligés d'être en parfaite compréhension avec les autorités de la Gambie et celle de la Guinée-Bissau. C'est ma responsabilité de le faire et je vais engager les discussions pour que la solution puisse être radicale, a ajouté la ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement sénégalais est en parfaite cohésion avec ses voisins mais aussi avec ses forces armées. Et ce n'est pas avec des allégations des médias mainstream que cet axe occidental réussira à ternir l'image de l'armée. Cette fois-ci, c'est le monde qui s'en prend aux forces de sécurité sénégalaises. Au Sénégal, plusieurs manifestants accusent les forces de sécurité de les avoir torturées, lit-on sur Le Monde. Ce média des puissances néocolonialistes ignore ou fait exprès d'ignorer que l'armée sénégalaise est l'une des armées les plus puissantes de l'Afrique, mais surtout soutenue et appréciée par son peuple. En effet, cette armée n'a jamais été autant équipée, modernisée et bichonnée que sous le président Macky Sall, chef suprême des armées. Sous son magistère, le budget de défense nationale a été multiplié par plusieurs fois des centaines de milliards de francs et un effort sans précédent consenti depuis 2012 pour acquérir des équipements et armements de nature à faire du pays une véritable puissance militaire sous-régionale. Une chose est sûre, dans cette sous-région ouest-africaine, voire au niveau africain, tous les observateurs et experts militaires s'accordent à reconnaître que le Sénégal est, depuis la cession au pouvoir du président Macky Sall, une puissance militaire qui a déjà montré ses preuves sur tous les théâtres d'opération.
Après la mort du président tchadien Idriss Déby, qui a dirigé pendant 30 ans son pays, son fils Mahamat Idriss Déby est le nouvel homme fort du Tchad. Il prend la tête d'une junte militaire et concentre tous les pouvoirs. Idriss Déby est mort lundi selon la présidence tchadienne à l'âge de 68 ans des suites de blessures subies au front contre des rebelles. Son fils, jeune général de corps d'armée de 37 ans, a dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il occupe les fonctions de président de la République, de chef de l'État et de chef suprême des armées selon la charte de transition publiée mercredi. Lancé en mars 2012, le corridor LAPSET cherche à relier le Kenya, le Soudan du Sud et l'Éthiopie par le rail, les aéroports et les routes. Ce mégaprojet, soutenu par l'Union africaine, consiste en la réalisation de 7 projets d'infrastructure, dont plusieurs routes. La Kenya National Highway Authority et la China Communication Construction Company ont signé lundi 19 avril un accord de 17,9 milliards de shillings, environ 166 millions de dollars, pour la construction d'une route de 453 km. Au Kenya, ces travaux, une fois terminés, devraient promouvoir le développement socio-économique régional le long du corridor de transport, en particulier dans les parties nord, est, nord-est et côtières du pays. Au Zimbabwe, le gouvernement qui a décrété l'urgence nationale pour la réhabilitation des infrastructures routières n'entend pas s'arrêter à mi-chemin. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a donné le jeudi 15 avril 2021 le coup d'envoi de phase 2 du programme d'urgence de réhabilitation des routes. 93 millions de dollars ont été alloués à cette phase qui sera consacrée au bitumage de 10 000 km de routes à travers tout le pays. Ce programme est vital étant donné que les routes sont intimement liées à notre économie dans le pays et au-delà. En outre, un bon réseau de transport est un rouage important dans la réalisation d'un large éventail de priorités et d'objectifs sectoriels énoncés dans la National Development Strategy 1, alors que nous nous dirigeons vers la vision 2030, a indiqué le président. Au Madagascar, la mine de graphite Vatomina entre en production commerciale. Tirupati a lancé plusieurs projets en Inde et à Madagascar afin d'augmenter sa capacité de production de graphite. L'ouverture de la mine Vatomina, alors qu'elle exploite déjà Sahamami sur la grande île, rapproche la société de son objectif de produire 3000 tonnes de graphite par an dès 2022. L'ouverture de la mine marque le début des opérations commerciales du projet Vatomina, ce qui nous rapproche de notre objectif d'augmenter la capacité de production à Madagascar à 30 000 tonnes par an d'ici au premier trimestre 2022 et à 84 000 tonnes d'ici 2024, déclaré le PDG de la compagnie Chichirpeda.